La chimie fait des ravages à Mayotte. Quels sont les types de drogues que nous pouvons retrouver souvent sur notre île et quelles en sont leurs provenances?
Alors, à Mayotte, alors il faut bien considérer, mais ça vous le savez, mais pour moi c'est important, avec tous les déplacements que j'ai pu faire à l'étranger, la spécificité de Mayotte, c'est d'être une île qui est posée au milieu de l'océan Indien. Sur son côté ouest, nous avons tout Comores, on a la Tanzanie, on a l'Afrique de l'Est. Et sur le côté est, on a Madagascar, Maurice, les Seychelles. Et si on remonte un peu plus loin, on arrive à l'Asie du Sud-Est. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, à Mayotte, il y a deux types de drogues qui circulent en fonction de leur site de production. Il y a des drogues qui sont produites localement et artisanalement sur Mayotte. Et je terminerai par ce deuxième type de drogue. Et ensuite, il y a une première catégorie qui est importée. Donc, on va avoir un peu de cocaïne, on va avoir un peu d'ecstasy type MDMA, on va avoir parfois du LSD. Pour l'instant, l'héroïne n'est que très peu présente. Les trois types de drogues que je viens de communiquer s'adressent à une population aisée, touristique et des gens qui ont de l'argent. Donc, ces drogues, je répète, LSD, cocaïne, ecstasy, sont très peu consommées et lorsqu'on peut les rencontrer, c'est dans des milieux festifs où il y a des gens qui ont de l'argent. Pourquoi je dis de l'argent? Si je prends par exemple un gramme de cocaïne, c'est vendu à peu près 60 à 80 euros le gramme. Si je prends un comprimé d'ecstasy, il faut entre 5 et 10 euros. Si je prends une goutte de LSD ou un timbre de LSD, puisque c'est le conditionnement du LSD, qui est une drogue hallucinogène extrêmement puissante, c'est vendu là entre 5 et 10 euros. Deuxième catégorie de substances que l'on trouve à Mayotte, la chimique, le bangué, le tibacou, le tremblou, par exemple, qui sont des drogues fabriquées de manière artisanale. Et certaines d'entre elles, on puise leurs racines dans des productions locales ancestrales qui étaient destinées à des fins médicales. La tremblou, par exemple, c'est fabriqué à partir de la sève de palme, du jus de palme. Donc on peut très bien en faire un médicament. Mais si on se met à le distiller, on va obtenir un alcool extrêmement fort qui va titrer à 70%. Si je prends le tibacou, c'est tout simplement du tabac qui va être réduit en poudre, très concentré, et qui va être sniffé ou appliqué sur la gencive sous la lèvre, avec un effet immédiat qui n'est pas celui qui était recherché initialement pour le côté médical traditionnel. Et si je prends le bangué, qui est le cannabis, on peut en trouver sous forme de bangué, donc de cannabis cultivé. On a effectivement le bangué. Et on arrive à la chimique. La chimique est arrivée pour la première fois à Mayotte en 2010. Alors quand je dis est arrivée à Mayotte, c'est officiellement. On a interpellé quelqu'un qui venait de la métropole, donc de Roissy, et qui était en possession de cette chimique. Et petit à petit, cette chimique s'est développée, au point que maintenant, la chimique est essentiellement consommée par des jeunes de 10 à 25 ans. Ça commence très tôt, avant le collège. Et c'est la drogue qu'on appelle du pauvre, parce qu'elle ne coûte absolument pas cher. On est à 50 centimes d'euros la dose. Rappelez-vous, je viens de dire, cocaïne 70-80 euros. Héroïne 50 euros pour faire simple, comprimé d'ecstasy 5-10 euros. Là, on est à 50 centimes. Et c'est fabriqué artisanalement. La chimique, c'est quoi? C'est du tabac mélangé de l'alcool, mais de l'alcool qu'on achète en pharmacie à 90 degrés. Donc c'est très puissant. On fait chauffer, on mélange et on fait sécher à l'air libre. Et on obtient quelque chose de noirâtre. Et quand on veut véritablement faire de la chimique très puissante, on va l'associer avec un cannabinoïde de synthèse. Donc c'est une sorte de dérivé de cannabis qui est une poudre blanche et que l'on peut acheter sur Internet. Donc on peut se faire livrer à son domicile ce type de produit. Parce que là, celui qui va fabriquer artisanalement, lui, il ne va pas fabriquer 10 kilos, 20 kilos, une tonne, 2, 3 tonnes. Il va fabriquer une dizaine de doses, toutes petites, qu'il va pouvoir vendre d'abord à ses copains, ensuite à des amis qu'il rencontre, des fois dans le club de sport, et petit à petit, ça va se profuser, comme on dit. Il va y avoir une dissémination de la substance. Et quand on parle de la chimique, c'est vraiment très inquiétant, parce que là, on a un cannabinoïde de synthèse qui va provoquer des hallucinations. Il y a un tabac qui est mélangé à l'alcool, ce qui fait qu'on se met à fumer de l'alcool très puissant et ça attaque le cerveau, ça détruit le cerveau, ça attaque les poumons, ça détruit les poumons. Et surtout sur le plan neurologique, ça vient perturber. Quelqu'un qui va tirer une, deux ou trois taffes, puisque c'est le terme qui est utilisé, très rapidement, au bout de 10-15 secondes, il peut devenir agressif. Il est capable d'avoir des hallucinations, de se mettre à discuter avec un grand-père, une grand-mère qui est morte depuis 10 ans. Il va rentrer en communication, il la voit devant elle, devant lui, il le voit devant elle, enfin, etc. Il est complètement perturbé. Il est paranoïaque. Paranoïaque, ça signifie que toutes les personnes qui sont autour de lui peuvent être des agresseurs potentiels. Donc, il va se méfier. Très difficile de discuter avec quelqu'un qui est victime de ça. Et le gros problème avec la chimique, c'est qu'on devient dépendant rapidement. Qu'est-ce que c'est que la dépendance? C'est-à-dire qu'on va en consommer pendant un mois, une à deux fois par semaine, après une deux fois par jour, après une deux fois par matinée, par après-midi, puis après une fois chaque heure, une fois en se levant, une fois en se couchant. Enfin, ça devient une consommation et comme ça ne coûte pas cher, dans un premier temps, on peut se le permettre. Et quand ils veulent arrêter de consommer de la chimique, eh bien, ils vont constater au partir du deuxième ou du troisième jour un état de manque et de dépendance, c'est-à-dire qu'ils vont se sentir mal. Ils n'arrivent plus à dormir, ils ont mal à la tête, il y a des vomissements, ils ne peuvent plus se concentrer, ils ne peuvent plus rien écrire, plus rien apprendre. Les examens, comme on dit, c'est le cadet de leurs soucis. Et ils deviennent ce qu'on appelle des futurs délinquants. Parce que même si ça ne coûte que 50 centimes la dose, quand il faut dépenser 10 euros par jour, qu'on est jeune, qu'on a 14 ans, 15 ans, 16 ans, que tous les jours il faut en consommer, ça fait sur un mois, il faut trouver 300 euros sur l'année, c'est 4000 euros. Et d'après vous, qu'est-ce qu'ils font? Je vais répondre à la question. ils se mettent à commettre de la délinquance. Dans un premier temps, ils deviennent eux-mêmes des fabricants et des vendeurs. Et après, ils vont s'attaquer pour voler des téléphones, si possible des iPhones. Après, ils vont s'intéresser à des cambriolages. Ils sont capables ensuite d'agresser. Et ils deviennent violents. Rappelez-vous ce que je viens de vous dire à l'instant. Quand on est sous l'effet de la chimique, on a un potentiel de violence, d'agressivité. On ne sait plus qui on est, on ne sait plus avec qui on est. Et les gens qui sont en face de vous, même si ce sont les futures victimes, deviennent une sorte d'agresseur. Et là, ils ne vont pas hésiter à utiliser un chambeau, un tournevis, un couteau pour menacer et parfois l'utiliser.
Les événements de ces derniers temps montrent une mayade s'enfonçant dans la violence. Aujourd'hui, pouvons-nous parler de criminalité organisée ou de délinquance occasionnelle? Quelle différence devons-nous faire entre criminalité et délinquance?
Alors, ce sont deux notions tout à fait distinctes. La criminalité organisée, on va dire, c'est la criminalité qui s'installe au niveau d'un pays, d'un territoire, ou qui a des ramifications internationales. Donc ce sont des structures où il peut y avoir 100, 200, 300 personnes qui vont décider, si je prends le trafic de stupéfiants, il me faut un paysan qui cultive la coca en Bolivie ou en Colombie. Ensuite, il me faut un chimiste pour extraire la cocaïne de la feuille de coca. Ensuite, il me faut un véhicule pour transporter la cocaïne de la cordillère des Andes jusqu'à un port maritime. Ensuite, il me faut encore un autre transporteur qui va me conditionner dans des valises qui vont arriver, par exemple, à l'aéroport avec des touristes. Ou alors, avaler, puisque le premier conditionnement utilisé par les trafiquants, c'est de faire avaler des boulettes jusqu'à 100, 200, 300, 400. Le record, c'est 3 kilos qui se retrouvent dans les intestins, dans l'estomac. Donc, ils vont les avaler, des boulettes de 10 grammes. Parfois, s'il y en a une qui explose, ils meurent instantanément dans l'avion. Et quand ils arrivent à l'aéroport, comme ça fait parfois 10, 12 heures qu'ils sont dans l'avion, ils vont très rapidement revomir ces boulettes ou les faire par voie expulsion, par voie anale et récupérer. Donc, cela nécessite effectivement une infrastructure du producteur jusqu'à l'acheteur. Et ce sont des raisons importantes. Ça, c'est de la criminalité organisée. La délinquance ponctuelle, conjoncturelle que vous m'avez décrite n'est pas associée à la criminalité organisée. C'est une délinquance qui s'installe pour assurer une consommation immédiate. Je n'ai plus d'argent, il faut que j'en trouve. Je suis dépendant de la drogue, je ne consomme pas, je souffre. Et tant que je n'ai pas trouvé cette drogue à consommer, je ne peux pas penser à autre chose. Même s'il y a un policier en face, même s'il y a un médecin en face, même s'il y a un gendarme, ça ne m'inquiète pas. Je m'en méfie, mais il faut que je trouve. Et là, il va commettre des actes. La deuxième chose où on peut avoir violence et consommation, par exemple, de chimiques, c'est qu'effectivement, des jeunes, dans le cadre, quand il y a des phénomènes de caillassage, lorsqu'on va se mettre à se battre à l'intérieur de Bangas, etc., la consommation de la chimique va optimiser cette violence. Et il n'est pas question de vouloir discuter avec quelqu'un qui est sous chimique, puisqu'il a des hallucinations, il a des crises, ce qu'on appelle des crises de dépensation, de bouffées délirantes, c'est-à-dire qu'il n'est plus lui-même, et ça, ça va durer 4, 5, 6 heures.
Devons-nous faire un lien entre explosion de la violence et développement du trafic de stupéfiants? Quelles autres causes peuvent expliquer l'augmentation de la délinquance?
Alors, concernant la délinquance, si on regarde les spécialistes à Mayotte que l'on retrouve au sein du tribunal, auprès des policiers, auprès des gendarmes, des éducateurs spécialisés, des centres d'addictologie, parce qu'il y a un centre d'addictologie qui a ouvert depuis le mois d'octobre 2021 à Mayotte, ils ont tous le même constat. C'est-à-dire que l'on a souvent des jeunes qui sont désœuvrés, des jeunes qui sont en difficulté scolaire, des jeunes qui n'arrivent pas à réussir leur scolarité, qui n'ont pas les diplômes, qui n'ont pas d'emploi. On appelle ça de l'oisiveté. C'est-à-dire, j'arrive à 18 ans, mais je ne vois aucun avenir professionnel, pour les raisons que je viens d'indiquer. Et il faut quand même que le temps passe. Et très souvent, quand ils vont commencer à consommer de l'alcool, parce que pour l'instant, la question n'a pas été posée, mais elle aurait été très intéressante, c'était de dire, est-ce qu'il y a des polyconsommations, c'est-à-dire consommation de plusieurs drogues quand j'ai un individu devant moi? Et la réponse, elle est oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement quelqu'un qui va consommer de l'alcool, on n'a pas uniquement quelqu'un qui va consommer du bangué ou qui va consommer de la chimique, on a quelqu'un qui va consommer ces trois produits, parfois en même temps, parfois décalés, et ça, ça va occuper sa vie. On appelle ça un phénomène de centration. Et quand il faut payer tout ça, quand il a envie de s'acheter une montre, quand il a envie de s'acheter un scooter, ben, au lieu de s'acheter un scooter, il va le voler. Au lieu de s'acheter un téléphone, il va le voler. Et pour acheter sa drogue, parce que les dealers ne font jamais crédit, il faut payer tout de suite. Ou s'il y a un crédit, il va falloir rapidement payer sa dette. Donc, il va commettre des actes de délinquance. Donc, il y a un lien. Mais ce n'est pas systématiquement le fait d'être en situation difficile que l'on devient consommateur de drogue, dépendant d'une drogue, c'est-à-dire toxicomane. Mais quand on identifie les toxicomanes qui ont commis des exactions, qui ont déjà été arrêtés à plusieurs reprises par les services de la police ou de la gendarmerie, on se rend compte qu'ils ont le même profil que je viens d'indiquer. Donc, il peut y avoir un lien. La deuxième chose, c'est que certains, dans leur délire, une fois qu'ils sont sous l'effet de la substance ou lorsqu'ils sont en état de manque, ne vont plus pouvoir se canaliser, c'est-à-dire réguler leur agressivité. Ils vont passer tout de suite à l'acte. Et on constate que des fois, un simple regard, un simple échange de mots, tout de suite on passe au couteau, tout de suite on passe au chambo, tout de suite on passe au caillou, tout de suite on passe... Voilà, c'est l'escalade rapide.